Il est 7h16 minutes. Pierre-Yves, il y a un marché qui est de plus en plus en vogue. En fait, une compagnie, entre autres, là, qui joue dans ce marché-là, qui s'appelle Good Food et qui veut prendre davantage de place, hein, n'est-ce pas, dans l'industrie de l'alimentation?
En fait, Good Food, Miss Fresh et tous les autres systèmes de boîtes repas à domicile ont le même problème. On doit amortir des coûts fixes. On doit amortir des coûts de livraison. Mm-hmm. Et on doit absolument convaincre le consommateur de consommer davantage. Et là, Good Food s'est dit, écoutez, nous autres, là, nos consommateurs, ils vont quand même à l'épicerie parce qu'ils vont s'acheter des œufs, du bird peanut. T'sais, toutes ces affaires-là, ils continuent à les acheter quand même. Et donc, on pourrait leur offrir du bird peanut Good Food. Mais là, ça amène un autre point. Ça veut dire qu'on pense que le consommateur qui fait du Good Food ne veut plus se rendre à l'épicerie.
Ouais.
Quel est le produit Good Food? Est-ce que c'est le fait de t'aider à cuisiner, d'avoir une livraison à domicile, d'avoir une aide pour la réflexion de la cuisine? C'est quoi le produit? Et c'est là que ça va être extrêmement limite. C'est-à-dire, t'achètes une boîte Good Food 80$, l'épicerie t'aurait coûté, mettons, 28 à 30$, t'as payé 50$ pour la livraison, pour le packaging.
Ouais.
Pour la recette, t'as payé 50$ pour la plus-value. Alors, est-ce que dans ta tête de consommateur Good Food, t'es aussi la personne qui se dit « Moi, je voudrais avoir toute ma livraison d'épicerie, puis le 20% de produits les plus achetés à l'épicerie, je voudrais que Good Food me les offre. » Faut pas oublier que la marge de manœuvre au niveau de la marge de l'épicerie, elle est très faible. Donc, l'épicerie va sur du volume.
Mm-hmm.
Est-ce que Good Food peut faire ça?
Ouais.
Parce que, je vais te traduire ça en français, Good Food dit « On n'est pas rentable. » La livraison coûte une fortune. On est obligé d'offrir de gros rabais pour avoir de nouveaux clients.
Mm-hmm.
On doit amortir le coût fixe. Quoi faire? On va pousser la vente en plus. Mais est-ce que tu veux que quand les gens viennent chez toi, ils voient du beurre de peanut Good Food?
Ouais.
C'est ça la question.
Mais il y a une autre façon qui se développe ailleurs dans d'autres types d'industries. Par exemple, Walmart. Tu sais.
Mm-hmm.
Walmart, avant, tu avais l'achat en ligne puis tu faisais livrer à la maison. Je pense que c'est encore possible. Mais il y a aussi le phénomène maintenant de acheter en ligne, mais venez le chercher au magasin.
Le hybride, c'est-à-dire, perdez plus le temps d'assembler, on va l'assembler pour vous pour 3$, puis venez le prendre à l'épicerie. T'as raison, c'est une autre façon de faire et d'amortir les coûts. Mais tu sais, Good Food génère 56 millions de revenus dans les dernières informations trimestrielles, mais perd 5 millions. Donc, on a beaucoup de frais de vente et d'administration, c'est énorme. Tu sais, t'as 20 millions de frais de vente et d'administration, donc comment amortir ça? C'est qu'il faut un jour que la publicité autour de Good Food ne soit plus nécessaire au même niveau. Tu sais, t'es en train de donner des repas, convaincre les gens d'essayer, mais est-ce que les gens restent assez et consomment assez de façon récurrente? Puis là, ce qui me frappe, c'est que t'as des pertes de 9,2% des ventes. Alors, pour atteindre la marge de profit, va falloir que t'augmentes ta marge. Donc, comment tu vas faire ça? Tu vas faire vraiment plus de volume, ou tu vas vendre plus cher, ou tu vas donner moins de qualité à tes clients. Tu vas pas transformer de l'eau en vin, là. Donc ça prend quelque part de la valeur qui va être transformée.
Mm-hmm. D'accord. Et bon, un message assez pour l'image de Bombardier, là, c'était pas fort le message qu'a envoyé la ville de New York hier, qui a dit, écoutez, Bombardier, là, vous nous avez vendu des citrons avec vos voitures qui marchent pas, là.
Ouais, ça a pris du temps. Évidemment, c'est un contrat qui est plus ancien, mais ça a pris du temps. On a eu des problèmes avec des logiciels. On a maintenant des problèmes avec les portes. Semble-t-il que ce serait un sous-traitant chinois qui aurait mal géré ses mesures. Mais, tu sais, l'importance maintenant de Bombardier Transport est tellement primordiale pour Bombardier parce qu'une fois que tu te débarrasses des avions commerciaux, puis que tu rationalises tes affaires. D'ailleurs, on a encore vendu une division de câblage. Bombardier, sa vie maintenant, c'est de se recentrer beaucoup sur le ferroviaire et le transport.
Ouais.
Et depuis la hausse du titre, tu sais, l'action avait atteint plus 5$ là, en 2018. C'est drôle, au même moment, les dirigeants avaient décidé de liquider des actions selon un processus indépendant, tu t'en souviens?
Ouais.
Hey, c'est-tu drôle, hein? L'action a chuté depuis ce temps-là, puis est rendu 1,87$. Hein? Timing is everything.
Mm.
Donc, on a vu venir ce qui s'en venait. Et quand tu regardes les états financiers de Bombardier, tu te dis, OK, là, le futur, c'est vraiment dans le train puis dans les avions qui sont non commerciaux, d'accord, dans la rationalisation des coûts, mais ça te coûte tellement cher que tu perds de l'argent dans un trimestre. Évidemment, tu as plus de dettes que d'actifs chez Bombardier. Ouais. Quand tu regardes le bilan comptable, tu te dis, ouais, 26 milliards d'actifs, 31 milliards de dettes US. Mettons que ça fait mal.
Ouais.
Puis tu viens chercher une charge de 261 millions de financement sur le résultat avant impôt. C'est sûr que ça vient plomber tes résultats. J'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir ce que la caisse va faire avec sa part. Mais chose certaine, c'est pas une bonne nouvelle au niveau de la visibilité. Mais on a un beau contrat en Chine qui vient de rentrer.
Merci, Pierre-Yves.
Salut.
À demain. Au revoir.